La guerre civile médiatique aura-t-elle lieu ? Depuis l'ouverture des travaux de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public fin novembre, la tension monte avec d'un côté un jeune député de 32 ans, Charles Alloncle, soutenu par les médias du groupe Bolloré, Europe 1 et CNews, et de l'autre, les agents du service public audiovisuel français et les soutiens des médias publics. Les extraits vidéo se multiplient sur les réseaux sociaux, ainsi que les révélations sur le train de vie du service public et ses rapports financiers avec certaines sociétés privées. C'est, après le budget et les retraites, un nouveau sujet de débat structurel dont les Français sont invités à se saisir, et cela risque d'être plus qu'une actualité ponctuelle, puisque la séquence devrait durer jusqu'au mois d'avril prochain, pour ce qui est des auditions, et que l'affaire sera ensuite encore relancée par la production du rapport, que les détracteurs de la commission accusent d'être déjà prêts avant toute démarche d'investigation. Le clergé de la République est-il en train de vaciller ? Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 20 décembre 2025, il est 21h34. Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette émission. Quelques petites annonces pour commencer. D'abord, première chose, ceux qui sont passés par ici sur la chaîne la semaine dernière ont dû constater qu'il n'avait pas eu d'émission, ce qui est normal, enfin ce qui était normal, qu'il n'y en a pas eu. Je ne sais pas si tous les abonnés prennent le soin d'aller voir les posts que je mets dans l'onglet communauté, mais normalement vous devez recevoir des alertes si vous avez mis la cloche, dans lequel j'expliquais que exceptionnellement il n'y aurait pas de live public, il n'y aurait qu'un live privé. Donc, c'est une nouvelle formule que j'ai tentée parce que j'ai pas toujours l'inspiration pour faire un live complet en public, donc puisque c'est un exposé, hein, donc forcément y a les questions ensuite qui arrivent dans le live privé. Il y en aura un ce soir, live privé d'ailleurs habituel, mais là c'était un live privé exceptionnel. Et honnêtement, l'expérience a été super. On a fait plein de choses nouvelles. Ça a duré presque 3 heures. J'ai pu discuter avec des gens en direct via Discord, donc des auditeurs de la chaîne qui pouvaient intervenir directement dans l'émission. Je pense qu'on va encore nourrir ça dans les prochaines formules. Et on a parlé de tout plein de sujets très intéressants. Ça a été de la psychologie de la génération Y, aux révoltés du Bounty, en passant par le miaulement des chats. Donc il y a eu des tas de sujets extrêmement intéressants. Et donc, à l'avenir, les souscripteurs qui ont accès au live privé auront accès à ça. Il fait partie de la bibliothèque, hein, si vous vous abonnez maintenant, vous y aurez accès aussi. Mais je pense que je vais faire de plus en plus de ce genre de d'émissions. Je ne sais pas à quel horizon, si ça va devenir périodique. Je tablerai peut-être sur quelque chose comme une fois par mois, tout ça, mais à la place d'un des lives publics. Mais ça sera peut-être juste ponctuel, exceptionnel, quoique régulier. Donc je ne sais pas encore, je vous tiendrai au courant. Enfin, vous serez au courant au fur et à mesure. Hein. Si vous ne me voyez pas une fin de semaine, vous vérifiez dans les posts, j'aurais peut-être prévenu qu'il y avait juste live privé. Mais franchement, on continuera là-dessus. L'autre bonne nouvelle pour la chaîne, c'est que je pense que vous avez dû constater, vous n'avez peut-être pas constaté, mais vous allez constater en regardant juste en dessous de la vidéo, que le nombre des abonnés est reparti à la hausse. C'est parce que le système des promotions semble refonctionner, comme il le faisait il y a quelques mois. Donc je vous disais, mes campagnes de promotion que j'avais voulu lancer, on avait dû mettre ça un petit peu en stand-by pour élargir l'audience de la chaîne. Eh bien, on peut recommencer. Donc pour ça, on aura besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas à souscrire ou à nous faire des petits dons via Tipeee, ça nous aidera. Voilà ce que je voulais dire en propos liminaire. N'hésitez pas à mettre des pouces. Et je répondrai aux questions dont à la fin de l'émission, comme d'habitude, et aux questions de nos chers abonnés dans le live privé qui suivra. Voilà. Alors, ce soir, donc, je voudrais parler de cette commission d'enquête. C'est le sujet qui m'a le plus inspiré. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé de la France, en plus, parce que je crois que ça doit faire un mois que j'ai parlé essentiellement d'actualité internationale, et en particulier autour de l'Ukraine. Donc il est temps de revenir un peu à nos moutons français. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que la dernière fois que j'ai parlé de... C'était pour la taxe Zucman et ça devait être le 1er novembre. Ouais. Donc ça fait un bon mois et demi que j'ai pas reparlé de la France. J'ai pas envie de parler des questions du budget, etc. Parce que bon, tant que c'est pas soldé, c'est difficile de voir quelles seront les conséquences politiques exactes du marasme. En revanche, ça me paraît important de parler de cette question de la commission d'enquête parce que c'est en train de monter en pression. Et surtout parce que je pense que ça a une signification historionomique importante. Je vois qu'on me demande déjà, on me parle des agriculteurs. Je dirais peut-être un mot des agriculteurs tout à l'heure, mais enfin, les agriculteurs, ça fait 3 ans qu'ils s'excitent chaque année. J'en dirai un mot tout à l'heure, on verra s'il y a quelque chose de nouveau. Mais bon, c'est difficile d'anticiper ça maintenant, surtout que, honnêtement, j'avais envie de parler de la commission d'enquête là, et j'aurai encore l'occasion de parler des agriculteurs, je pense, dans les semaines qui viennent. Mais j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure quand même, parce que ça fait partie du contexte révolutionnaire, parce que c'est de ça qu'il est question. Moi, ce soir, j'ai pas envie, je vais pas vous parler, je vais pas trop parler de tous les trucs chiffrés qui sortent. Bah, y a des trucs chiffrés qui sortent, naturellement, vous avez dû entendre. Vous avez dû entendre parler du montant des contrats qui paraissent assez faramineux entre France Télévisions et Media One. La société de Pigas, je crois qu'il y a Daniel aussi avec lui dedans, qui facture des dizaines de millions d'euros. Le truc à la fin, on s'aperçoit que les émissions qu'il facture annuellement à France Télévisions, c'est aussi gros, aussi important que le budget de fonctionnement de CNews. Alors c'est difficile de faire, j'ai pas le détail de toute cette affaire, mais ça me rappelle un peu, et c'est ce dont j'ai parlé sur X, il y a un petit côté fermiers généraux. Vous savez, les fermiers généraux sous l'ancien régime, c'était les gens qui avaient une espèce une sorte de délégation de service public aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas d'administration fiscale ou très peu, et donc c'était en fait des gens privés qui était chargé de récupérer l'impôt avec intérêt, disons. Et je rappelle le truc, le mécanisme très simple. Fermier général, ça veut dire que vous avez par exemple un fermier général pour le Languedoc. Vous lui dites, voilà, j'ai besoin que votre province, elle me rapporte 4 millions cette année. Parce qu'à l'époque, c'était l'ordre grandeur. 4 millions cette année. Le fermier général, qui était un type très riche, c'est souvent des bourgeois enrichis, etc. Vous avancez, alors il n'était pas tout seul souvent, les fermiers généraux, ils s'associaient pour avoir la surface financière. Ils donnaient l'argent au roi directement, donc le roi avait ses recettes d'impôts tout de suite pour faire ce qu'il avait à faire avec. Et ensuite, les fermiers généraux allaient les récupérer au nom du roi en appliquant donc les impôts et généralement en prenant plus que ce qui était dû au roi précisément pour se payer au passage. Donc ils faisaient des fortunes comme ça, et c'est pour ça qu'ils étaient très détestés, parce qu'ils faisaient des fortunes sur le dos du bon peuple en utilisant ses impôts. Et donc il y a un petit côté fermier général de l'audiovisuel, je trouve, avec le fait d'avoir des sociétés de production qui vendent des prix d'or, parce que c'est ça, hein, qui vendent prix d'or des émissions au service public, qui ne peuvent le vendre aux émissions du service public que parce qu'ils ont des proximités politiques avec le service public. Donc c'est grâce à leur entre-gens et leur réseau, en fait, qu'ils arrivent à vendre ces trucs-là. Et qui, bien sûr, politiquement en plus, sont toujours dans le même sens que les autorités du service public. C'est-à-dire, grosso modo, le centre-gauche, le Parti socialiste et affilié qui tiennent tout ce réseau-là. C'est ce qui sort de plus en plus de la commission d'enquête, d'ailleurs. Et donc c'est grâce à ça qu'ils ont les contrats. Et donc quand vous voyez Pigas qui vient expliquer qu'il veut mettre c'est le nouvel observateur, je crois, qui détient, qui veut mettre ça au service de la lutte contre l'extrême droite, vous comprenez très bien que ça fait aussi partie du combat qui lui permet d'avoir ensuite derrière les jetons de conformité qui lui permet d'avoir les contrats. Donc tout ceci n'est pas gratuit, évidemment, hein. On est sur des gens qui font beaucoup d'argent, qui feront beaucoup d'argent avec les impôts des Français, puisque l'audiovisuel public est payé avec les impôts des Français, en particulier avec une fraction des recettes de TVA, depuis que ce n'est plus par la redevance télé. Donc je vais pas trop entrer dans le détail là-dessus, à part ce parallèle qui me vient sur le détail de l'affaire. Je vais pas venir dessus sur le détail des choses de certaines choses qui sont reprochées organiquement, on va dire, au service public non plus. Par exemple, le fait qu'ils aient un certain nombre de privilèges, notamment l'histoire des 14 semaines de congés payés. Je sais pas dans quelle mesure c'est exorbitant. Dans quelle mesure les explications que donnent les types pour expliquer que c'est parce que ça compense, etc. Dans quelle mesure c'est conforme au droit commun, on va dire, et que c'est juste l'exceptionnalité de la façon dont il fonctionne qui justifie, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est l'impression que ça donne vis-à-vis des Français, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ça a un sens politique. Et tout ceci monte. Donc moi, ce qui m'intéresse, je vous dis, c'est pas de venir précisément sur le détail, sur ce qui est sorti de cette commission d'enquête. Ça, je vous laisserai faire votre avis tout seul et puis aller fouiller l'actualité. C'est pas ça l'idée aujourd'hui. L'idée, c'est de parler plutôt de la signification, on va dire, historionomique, c'est-à-dire dans le cadre des modèles, de ce qu'on est en train de voir. Parce que, je rappelle, vous n'êtes pas particulièrement nombreux ce soir, donc je pense qu'on a essentiellement des gens qui sont au fait des théories, mais si jamais il y a des gens qui arrivent par hasard, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la petite liste Les Essentiels gratuits. Vous avez notamment une vidéo Pourquoi une révolution arrive en France qui vous donne le détail, et puis si vous connaissez la chaîne, vous pouvez toujours aller réviser, qui vous donne le détail de la façon dont fonctionne le modèle. Et donc, l'idée, vous le savez, c'est que, a priori, on est entré dans une phase de révolution nationale qui a commencé. C'est difficile de dater exactement quand, mais probablement avec la dissolution. Avec la dissolution de 2024. On peut peut-être considérer que ça a commencé un peu avant, avec déjà les législatives surprises de 2022. Qui ont fait perdre la majorité au Parlement à Emmanuel Macron, même s'il a conservé une majorité relative. Mais avec le côté appel aux élections inattendues, le côté perte totale et historique de toute majorité au Parlement, je pense que c'est plutôt effectivement 2024. Surtout que ça a provoqué, dans les 6 mois qui ont suivi, la toute première motion de censure en 60 ans. Et depuis, on le voit, la reprise du contrôle du pouvoir par le Parlement, très nette. Et cette reprise du contrôle s'accentue, hein, puisque il y a, ça fait un mois et demi, 2 mois maintenant, le Premier ministre a même décidé de ne plus recourir au 49-3 pour réussir à faire passer le budget. Ça a marché pour le PLFSS, on verra si ça marche pour le projet de loi de finances totale. Mais de toute façon, c'est intéressant parce qu'on a une reparlementarisation du régime, qui était ce qu'on attendait dans le cadre de cette révolution nationale, qu'on attendait aussi, puisque je vous l'annonçais depuis un petit moment. Donc la question après, c'est que où vont les choses, parce que de certains autres côtés, on se dit que ça traîne quand même. Nous avons Emmanuel Macron qui est toujours là, je l'ai déjà dit. Nous avons une situation économique qui continue de se dégrader, et on n'a pas eu de modification fondamentale du régime jusqu'à maintenant. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué, une révolution, c'est pas que des modifications institutionnelles. Et institutionnelles, on va dire, de surface, c'est-à-dire la Constitution, par exemple. Une révolution, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus fondamentales, qui vont être des réformes de structure sur l'appareil d'État dans son ensemble, sur la fiscalité, sur la liberté d'entreprendre les conditions, on va dire, de l'entreprise, sur les conditions du travail en général, et aussi naturellement sur l'idéologie et les conditions intellectuelles de vie du régime. Et c'est à ça que se rattache, selon moi, cette commission d'enquête, parce que, en fait, et j'en parle un petit peu sur X ces derniers jours, et j'en ai parlé aussi sur le Telegram, mais c'est quelque chose qui est pour moi de plus en plus net. Nous sommes face, et c'est le titre de cette vidéo, ce que on vous a fait mettre en vignette avec beaucoup de talent comme d'habitude. Je le dis avec d'autant plus de fierté que c'est pas moi qui fais les vignettes. C'est que le service public audiovisuel, on pourrait l'étendre éventuellement aux médias subventionnés dans leur ensemble, mais le cœur du système, c'est quand même le service public audiovisuel, parce que la plupart des gens lisent pas Le Monde et Le Figaro, par contre, ils sont devant leur télévision le soir pour regarder le JT, et si c'est pas celui de TF1 qui regarde, c'est celui du service public. Parce que les gens sont extrêmement nombreux dans leur voiture à écouter les radios du service public, que ce soit France Info, France Inter, etc. Donc, la place du service public audiovisuel est extrêmement importante dans la vie des Français et dans la vie intellectuelle et politique du pays et médiatique, donc. Or, la façon dont j'analyse donc ce service public que nous avons, qui est énorme, il est colossal le service public en France. Il y a beaucoup de stations de radio. Parce que les stations, il y a beaucoup de chaînes de télévision. Vous avez France 2, vous avez France 3, vous avez France 24. Vous avez une participation dans Arte. Après, vous avez TV5, ça existe toujours TV5 d'ailleurs, je crois, il me semble-t-il. TV5 Monde, c'est la radio, oui, tout à fait. C'est la TV internationale francophone. Vous avez la RFI. Bref, vous avez tout un tas de. Ça, c'est pour la radio. Mais il faut peut-être des vidéos aussi, d'ailleurs. Donc, vous avez. C'est véritablement pléthorique. Et ça a véritablement le rôle, c'est comme ça que je le définis, le rôle d'un clergé. Et ce qui a longtemps été le clergé dans beaucoup de pays, et notamment en France sous l'Ancien Régime, mais on trouve la même chose dans d'autres endroits. On trouve la même chose, par exemple, en Espagne, typiquement, avant la Deuxième République espagnole. C'est un système dans lequel donc vous avez une petite partie de la population. Aujourd'hui, France Télévisions, c'est quoi? C'est 15 ou 16 000 personnes. J'ai posé la question à Grok hier. Grosso modo, c'est 15 ou 16 000 personnes. Si vous ajoutez, les gens de la presse subventionnée, vous arrivez sur quelques dizaines de milliers de personnes, hein, à peu près 60 000 personnes à l'échelle du pays. Et c'est grosso modo, c'est l'équivalent de ce qu'était le clergé séculier dans la France pré-révolutionnaire. Ce qui caractérise en plus France Télévisions, c'est que pour beaucoup, on est quand même sur l'équivalent du haut clergé. Quand vous voyez, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais le revenu moyen à France Télévisions est très important, en plus des autres privilèges qu'il y a. Et il a été noté que sont surreprésentés les gens qui viennent, alors soit directement, soit par proximité, grosso modo du Parti socialiste, c'est-à-dire qui sont d'une certaine manière des apparatchiks du système, et qui donc en fait sont plutôt l'équivalent du haut clergé. Sont l'équivalent du haut clergé, et qu'est-ce qui caractérisait le haut clergé? Ben, c'est que ses membres étaient essentiellement des membres de la haute noblesse, c'est-à-dire précisément des gens qui venaient déjà de familles installées dans l'appareil du pouvoir, et dont une partie des fils de famille était envoyée dans la branche idéologique, on va dire, c'est-à-dire celle qui servait à tenir le pays de cette manière-là. Et donc, de la même manière que vous aviez l'alliance du trône et l'autel sous l'Ancien Régime, aujourd'hui, vous avez un petit peu l'alliance de l'État et du service public, qui est effectivement le bras armé idéologique de la façon dont il faut penser dans le pays, et le bastion de la bien-pensance. Et ça joue véritablement ce rôle-là. C'est-à-dire que toute nouvelle idée qui va arriver, tout nouveau débat qui va se pointer, vous avez en fait un service public qui donne un petit peu le là sur la question. C'est-à-dire qu'il va décider de vous dire qu'est-ce qui est conspirationniste, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est raciste, qu'est-ce qui l'est pas, etc. C'est-à-dire quel est le discours autorisé, tout simplement, et quel est le discours qui ne l'est pas. Et ce qui caractérise notre service public, c'est pas juste qu'il a une espèce d'autorité du fait de ce qu'il est, c'est aussi et surtout que, comme il est quand même massif, il représente quand même beaucoup de monde, et bien, en plus, il a un poids, on va dire, démographique au sein de la population des journalistes, qui renforce encore un petit peu plus son autorité. Puisque forcément, je n'ai pas fait le calcul de la donc je vous dis un chiffre absurde et au hasard, hein, mais si vous avez, je sais pas, un quart ou un tiers d'une profession qui dépend d'un secteur en particulier, ben forcément, quand ce secteur décide d'aiguillonner, ça a un effet, une sorte d'effet multiplicateur sur la masse totale. Et donc ça a véritablement ce rôle-là dans l'écosystème français. Aujourd'hui, c'est véritablement le clergé. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'un pays qui entre en révolution traite son clergé ? Et là, une fois que vous mettez ça en tête, c'est que vous comprenez qu'il faut l'interpréter comme ça, vous voyez les choses différemment. Parce que quel est le récit que vous porte le service public ? Il essaie de vous expliquer que, en gros, ils essaient de vous expliquer en fait presque que le service public médiatique, c'est une sorte de progrès. Ça s'inscrirait historiquement dans le progrès, puisqu'en gros, ça aurait émancipé la population en lui donnant accès à une information non partisane, etc. Et donc, c'est comme ça que c'est présenté, le service public. C'est présenté comme un progrès historique. Hein. En gros, ça n'existait pas avant, ça s'est mis à exister, et c'est ce que vous disent souvent les gens, il y en a dans tous les pays, dans toutes les démocraties européennes. Donc en gros, c'est bien, et presque c'est consubstantiel à la démocratie, le service public audiovisuel. Et vous, quelque part, vous en avez besoin. Sinon, vous seriez victime du populisme, de tout, etc. Bon. Le problème, c'est que, déjà, cette façon de voir les choses, elle est assez bidon, en fait. Parce que c'est biaisé. Déjà, première chose, parce que, quand vous dites toutes les démocraties voisines ont un service public audiovisuel, oui, toutes les dictatures aussi ont un service public audiovisuel. Simplement, vous parlez de médias officiels dans ces cas-là, hein, ou médias du pouvoir, médias d'État. Bon, quand vous, dans les démocraties, vous dites service public pour essayer de faire genre que c'est pas la même chose, mais historiquement, c'est la même chose, effectivement. Et historiquement, précisément, les services publics audiovisuels en particulier. Alors c'est vrai de tout, hein, puisque à la base la presse c'était également sous contrôle de l'État. La radio, quand elle est apparue, ben, les stations de radio nationales, ça a d'abord été les stations d'État, puisqu'il fallait contrôler les fréquences notamment, et puis ça nécessitait des infrastructures, donc c'était l'État qui lançait ça, et ça a été pareil pour la télévision. Et donc la réalité, c'est que si vous regardez historiquement, le progrès, ça n'a jamais été, en tout cas le progrès dans la diversité, on va dire, et vers la démocratie, ça n'a jamais été l'apparition d'un média d'État. L'apparition du média d'État, c'est la base, c'est le développement de base. Le véritable émancipation, elle arrive quand la société civile s'empare des médias et qu'elle crée elle-même les siens. Donc quand vous avez commencé à avoir des radios libres, quand vous avez commencé à avoir, bah, avant ça, la presse libre, et quand vous avez commencé à voir des chaînes de télé qui sont multipliées, notamment qu'on a vu apparaître ensuite la TNT, etc. Mais déjà, quand il y a eu les premières privatisations de chaînes de télévision, ça, c'était une émancipation vers la liberté et le pluralisme. D'accord ? Donc les médias d'État, partout où ils existent, et quand c'est dans des démocraties, ne sont pas une espèce de truc qui est apparu pour lutter contre des médias entièrement privés qui seraient obscurantistes, etc., et pour apporter une information fiable. Ce sont les héritiers des médias d'État, qui sont à la base ceux qui existent, Et ceux qui sont apparus ensuite et qui sont le signe d'une émancipation et d'un progrès vers la démocratie, ce sont précisément les médias privés. C'est comme ça que ça se passe. Simplement, les médias publics essaient de vous expliquer radicalement le contraire. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'ils vous expliquent ? Ils vous expliquent qu'en gros, ils sont là d'une certaine manière pour jouer un rôle d'arbitre. C'est-à-dire pour dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc ils l'avouent, ils le reconnaissent. Ça fait partie de leur cahier des charges pour eux. Mais alors il faut bien comprendre une chose, parce que je parlais des journaux déjà. Quand je vous disais, à la base, les journaux, c'était aussi l'État. C'était sous contrôle, effectivement. Il faut se souvenir d'un truc. Quand on parle de liberté de la presse, nous, on entend ça comme quelque chose d'un petit peu abstrait. La liberté de la presse, c'est en grosso modo la liberté journalistique, la liberté pour les gens de faire des enquêtes, de s'exprimer. C'est tout ça qui vous vient quand vous pensez liberté de la presse. C'est le fait de ne pas emprisonner les journalistes, etc. Bien. À la base, la liberté de la presse, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. La liberté de la presse, c'est simplement le droit d'imprimer sans demander d'autorisation préalable. C'est ça, la liberté de la presse. Quand la Révolution française proclame la liberté de la presse, ça veut dire, c'est bon, maintenant, vous pouvez imprimer ce que vous voulez sans demander l'autorisation avant. C'est matériel, quoi, comme liberté. Ensuite, forcément, par extension, c'est devenu la liberté des journalistes de faire leur travail. Mais, à la base, liberté, c'est d'imprimer. C'est tout ça pour vous dire que la technique, l'outil, à la base, est toujours dans le contrôle du pouvoir à l'origine. Et le pouvoir cherche toujours à contrôler l'information, de base. Et c'est ensuite que l'information libre arrive, par les nouveaux canaux, j'entends, hein, bien sûr. Par les canaux traditionnels, en général, la société s'en est déjà emparée. Mais les nouveaux canaux, vous avez toujours le pouvoir qui va mettre la main dessus parce qu'il a peur que c'est instable, etc. Ou simplement parce que c'est lui qui a le seul les moyens de les mettre en œuvre. Parce que ça nécessitera des infrastructures, etc. Bien. Donc, quand le service public vous explique qu'il y a des services publics partout dans la démocratie, ça n'est pas du tout un marqueur de démocratie, en soi. La Troisième République était une démocratie avant qu'il y ait les services publics radiophoniques, qui commencent à apparaître dans les années 20, si je ne me trompe pas. C'est un peu après la BBC, je crois, ça doit être en 1924, je crois que la BBC c'est 1922, quelque chose comme ça. Donc c'est dans ces eaux-là. Enfin, ça faisait déjà 50 ans qu'elle existait, la Troisième République, et les lois sur la liberté de la presse étaient 1881. Donc si vous voulez, c'est pas le fait d'avoir un service public audiovisuel qui fait de vous une démocratie. Bien. Donc tout ce récit est faux, mais il nous rappelle des choses. C'est qu'il nous rappelle qu'il s'agit, si, dans le discours, ça que je veux vous faire comprendre, dans le discours, quand vous dites il y en a dans toutes les démocraties, en gros, s'il n'y en a plus, ça sera moins démocratique, ou si vous voulez supprimer le service public, c'est la démocratie que vous attaquez, en réalité, c'est effectivement une façon de parler de clergé, ça. C'est-à-dire, en gros, c'est une façon de parler de gens qui estiment avoir une autorité particulière, qui caractérise le clergé. L'autorité, c'est pas un pouvoir, mais c'est ce qui vous permet c'est le sens du mot en latin, l'auctoritas, ça vient du latin augere qui signifie augmenter. Et donc l'autorité, c'est le fait de pouvoir accroître le discours de quelqu'un d'une puissance supérieure qui fait que son discours vaudra plus que celui des autres. Parce qu'il est tamponné, en fait. C'est ça l'idée, hein. Tout simplement, très, très matériellement. L'autorité, c'est ça. C'est le fait de pouvoir recouvrir l'action de quelqu'un d'autre d'une force supérieure à celle de l'action autour. Donc c'est pas un pouvoir, c'est pas le pouvoir de faire quelque chose, c'est le pouvoir d'autoriser, c'est bon, d'augmenter d'un certain prestige, d'une certaine force morale, l'action d'autrui. C'est ça l'autorité. Bon. Et donc typiquement, c'est ce que fait un clergé. Et on a un service public qui tient, dans ce pays indo-européen qu'est la France, qui tient le rôle d'un clergé. Et si vous regardez, et ça explique tout, si vous regardez la façon dont les gens se volent au secours du service public audiovisuel, c'est un discours clérical qui est tenu. Si vous comparez avec les discours qui étaient tenus sur le rôle social de l'Église, la nécessité de distinguer le mal de l'erreur, etc. Mais là, c'est fondé sur les questions religieuses, mais c'est pareil chez nous. Hein. Vous avez le service public audiovisuel, il reprend les religions, le sentiment religieux de l'époque, c'est-à-dire le scientisme, tout le discours catastrophiste sur le climat, absolument toutes ces choses-là sont reprises comme des éléments du discours religieux par le service public. Vous avez d'autres éléments, d'une certaine manière. Vous avez, alors ça, c'est en train de changer un petit peu parce que le bon nombre de membres du service public sont de gauche, et donc la tension qui touche toute la gauche à propos de la question de la place de la population juive dans la société commence à infecter aussi le service public audiovisuel. Mais dans la façon dont le service public audiovisuel s'est construit, il y avait aussi le fait de devoir lutter contre le fascisme, contre le nazisme, en utilisant finalement comme équivalent de ce qui était le discours sacrificiel dans celui de n'importe quelle religion, en utilisant l'Holocauste pour ça. Maintenant, ils sont en train de glisser parce que c'est pas impossible qu'ils soient tentés de le faire avec les Palestiniens plutôt qu'avec les Juifs, mais c'est toujours la même utilité, si vous voulez, la même structure de discours qui revient, puisque éventuellement, pour devenir plus de gauche, ça glisserait vers un discours précisément post-colonial, où la victime sacrificielle qu'il faut défendre et qu'il faut éviter le plus jamais ça, c'était la population colonisée. Mais c'est le même ressort, si vous voulez, qui se maintient. Et donc dans ce discours clérical qui s'est construit, et qui désormais est contesté. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est c'est pour ça que je reviens sur ma question initiale. C'est typique des moments révolutionnaires, ce qui est censé arriver. Le clergé est censé être contesté et il est censé être un des premiers à être contesté parce que les ennemis du régime savent très bien que c'est lui, d'une certaine manière, qu'il faut abattre en premier pour gagner la bataille des idées et pour pouvoir faire tomber cet obstacle de l'autorisation contraire à ce que vous dites. Puisque quand vous essayez de faire quelque chose, s'il y a toujours une autorité morale en face pour expliquer que vous êtes ceci, cela, ça ne fonctionne pas. Donc c'est ça qu'il faut commencer à casser. Et c'est très intéressant parce que vous avez, notamment à propos de l'affaire Cohen-Legrand, vous avez des gens qui viennent expliquer que, grosso modo, c'est de la chasse aux sorcières, c'est un scandale, on s'en prend à des journalistes, etc. Alors, ça serait vrai, et ça serait navrant, il faudrait s'en inquiéter, si effectivement on s'en prenait à des journalistes. D'accord ? Quand vous avez Anna Politkovskaya qui a été assassinée en Russie, ou quand vous avez Navalny qui est mort en prison en Russie, là on s'en prend à des journalistes, à des gens qui tentent de faire passer un message de l'anti-alerte, etc. Quand on s'en prend à M. Cohen et M. Legrand, c'est pas du tout des lanceurs d'alerte auxquels on s'en prend, d'accord ? C'est pas du tout à des gens qui menacent le système qu'on s'en prend, et c'est surtout pas l'État qui s'en prend à ces gens-là. Ce sont des gens qui sont au cœur du système, qui sont au cœur de la légitimation du système contre les oppositions au système. C'est-à-dire, c'est un clergé. Et donc, ils ne sont pas l'équivalent des journalistes persécutés par des pouvoirs autoritaires dans les pays autoritaires. Ils sont l'équivalent des mollahs dont la jeunesse est allée arracher les turbans il y a 2 ans quand il y a eu la manifestation de la jeunesse à Téhéran. Et que vous voyez les vidéos se multiplier sur Internet. Des mollahs qui se faisaient arracher le turban comme ça. C'est ça, en réalité, le truc. C'est ça. Donc si vous voulez, il faut bien comprendre ça, et c'est très intéressant parce que je pense que la plupart des gens qui débattent sur la question ne le comprennent pas. Il y a des gens qui s'attaquent au service public pour de bonnes raisons, mais sans identifier ce fait, qui à mon avis en plus est assez assassin, qui est que c'est un clergé. Et il faut leur dire que c'est un clergé, et il faut le dire comme ça. Parce que justement, ce sont des gens qui se sont habitués à penser finalement que, à l'époque de la Révolution, eux, ils auraient été les gens des Lumières qui luttaient contre tout clergé, alors qu'en réalité, leur positionnement social et politique aujourd'hui est le positionnement inverse. Ils sont effectivement à la place du clergé. C'est ce rôle-là qu'ils tiennent, ce rôle structurel. quand je parle de ça, encore une fois, je parle pas de foi, hein. Je parle pas de religion, oui, au sens foi, au sens croyance. C'est pas tellement ça le sujet, même si je vous ai dit qu'il y avait un fondamental, il y avait un mode de fonctionnement. Mais c'est plutôt sur une question de structure, hein, que je vous parle, c'est-à-dire le rôle social pris par un groupe pour tenir et faire partir du système. Et donc, la Ve République, en fait, a développé petit à petit ce clergé, en recrutant les journalistes là-dedans, parce que les journalistes, historiquement en France, pour le coup, étaient des vrais journalistes. Le journalisme s'est construit en France pendant tout le XIXe siècle, souvent en opposition à la censure de l'État. Et la censure de l'État, elle a existé pendant longtemps, encore une fois. Je rappelle que les lois sur la liberté de la presse, je crois que j'ai dit une ânerie tout à l'heure. C'est 1881. 1881... et c'est sous la Ve République d'ailleurs qu'elle a commencé à être battue en brèche, qu'on a voulu mettre des trucs sur, pour la lutte contre la haine, etc. Mais jusqu'en 1881, depuis la Révolution jusqu'en 1881, donc ça fait pendant presque 100 ans, les journalistes ont dû se battre contre la censure du pouvoir. Que ce soit sous la Restauration, que ce soit encore sous la monarchie de Juillet, même si les choses s'étaient un peu arrangées, et bien sûr sous le Second Empire, bien sûr. Et donc même pendant les premières années de la Troisième République, même si en pratique les choses s'étaient un petit peu déliées, il a fallu arriver à porter cette grande loi pour établir effectivement la liberté de la presse. Donc, ça n'existait pas, si vous voulez. Au moment où la Ve République a été instaurée, hein, la constitution du service public s'est construite à partir de là. Et s'il fallait trouver une date à laquelle c'est effectivement devenu un clergé, je pense qu'on peut dire que c'est pendant les années Mitterrand. Parce que effectivement, c'est un moment où les socialistes sont arrivés au pouvoir. Ils ont changé tout un tas de cadres à l'intérieur du service public audiovisuel. Et la droite n'est jamais revenue là-dessus lorsqu'elle est revenue au pouvoir plus tard. Et donc c'est à partir de là que vous avez... C'est pour ça que vous avez une intrication du Parti Socialiste avec les structures de pouvoir au sein de ce clergé républicain aujourd'hui, c'est parce que y a pas eu de retour en arrière et de gens qui ont été virés pour ça. Et donc vous arrivez au système qui est celui d'aujourd'hui avec cette commission d'enquête qui s'attaque. Et donc je disais, c'est parfaitement logique que vous ayez une commission d'enquête aujourd'hui qui s'attaque à ça. Pourquoi ? Parce que si vous réfléchissez... Ben, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on est entré dans ce mouvement de révolution nationale en France. Et donc, vous avez une révolution, et donc un parlement, qui commence à s'attaquer. Et c'est assez logique parce que si vous regardez ce qui s'est passé en France, le projet de loi sur la constitution civile du clergé, il a été voté le 12 juillet 1790. Donc c'était un an après le début de la Révolution. Si vous regardez ce qui s'est passé, en Espagne, vous avez eu le premier élément, ça a été avec la constitution du 9 décembre 1931. Donc on était quelques mois après le début de la Révolution espagnole, on va dire. Et la loi sur les confessions et congrégations religieuses, qui a véritablement commencé à casser finalement l'appareil clérical en Espagne, ça c'était en 1933. Donc c'était à peu près au bout de 2 ans. Donc c'est quand vous avez ce genre d'attaques qui sont faites contre le clergé, ça arrive voilà au bout de quelques mois après le début de la Révolution, vous avez l'attaque qui commence à être portée contre le clergé. Ça vient pas tout de suite, ça vient avec le temps. Bon. Et bien pour moi, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que ça ne fait que commencer, encore une fois. La commission d'enquête, elle peut durer pendant 6 mois. Visiblement, les travaux, ils veulent le faire durer et ils veulent l'utiliser. Donc ça va de manière lancinante et jusqu'au moins aux élections municipales, s'il ne se passe pas autre chose avant. Cette commission d'enquête va continuer à donner et va avoir une espèce d'effet lancinant en arrière-plan. Et ça va vraisemblablement nourrir de plus en plus la volonté de casser le service public audiovisuel français, de lui imposer au moins un dégraissage, éventuellement le privatiser en entier. Je ne sais pas si ça sera privatisé en entier, mais d'ailleurs, on va y venir dans un instant. Mais je pense, quand vous voyez de toute façon le Rassemblement national qui est en train d'en faire un élément de son programme et de plus en plus net, de plus en plus certain, il est vraisemblable que on va aller vers quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'à terme, une fois qu'on aura eu le rapport, une fois que la commission aura lieu, parce que la commission elle a aussi un effet pédagogique sur la population, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'éléments qui viennent indigner un peu plus une population qui en a marre, qu'on lui demande des sacrifices, etc., et qui ont en plus l'impression que le clergé se gave d'une certaine façon. Donc il y a tout ceci lutte contre ça. Et en plus, ça vient s'associer au fait que, si vous vous souvenez un petit peu de ce que je vous avais dit il y a quelques mois maintenant, puisque c'était dans une des émissions précédentes que j'avais fait, je vous avais fait un petit travail où j'avais essayé de vous expliquer qu'il y avait plusieurs façons de lire le clivage politique français aujourd'hui. Et que sur cette question de l'audiovisuel public, clairement, c'est la droite qui est d'une certaine manière révolutionnaire, en voulant casser ce truc-là, en voulant revenir là-dessus. La gauche le veut pas. Alors en même temps, vous avez des gens à l'extrême gauche qui arrivent à citer des émissions de Léa Salamé en expliquant que Léa Salamé est de droite, presque voire d'extrême droite. Donc ça peut être amusant comme ça, mais parce que pour la gauche, de toute façon, ça représente le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que de toute façon, que vous preniez extrême gauche ou extrême droite, ils se retrouvent dans l'idée que de toute façon, les médias d'État, c'est le pouvoir d'État. Alors ils veulent pas. Que les médias, ce qui différencie, on va dire, la gauche avec la droite, c'est que la gauche actuelle, en tout cas, ne veut pas que le service public soit détruit parce qu'ils se disent, eux, que s'ils arrivent au pouvoir, en gros, bah, ils feront ce qui avait été fait à l'époque de Mitterrand, c'est-à-dire qu'ils mettront le service public au pas et au service de leur discours. Alors qu'à droite, il y a l'idée dont on veut juste le casser parce qu'en gros, des médias, on en a avec, par exemple, les médias Bolloré. Ça peut être cette idée-là. Mais, donc, mon avis, moi, l'avis que j'ai là-dessus, c'est que c'est cohérent. De voir ça, on pouvait s'attendre à voir ça d'ailleurs, me semble-t-il que je vous avais dit qu'à mon avis, il y aurait une remise en cause du service public audiovisuel à un moment dans le cadre de la Révolution. On y arrive, c'est effectivement ça qu'on a. Et donc, ça devrait avoir un certain nombre d'effets qu'on observe traditionnellement dans la lutte contre le clergé, justement. Alors, j'ai essayé de faire quelques petites projections, de savoir à quoi ça ressemblerait, au niveau de l'action, une sorte de constitution civile du clergé républicain. C'est-à-dire un équivalent de ce qu'a été les réformes de la Révolution par rapport à l'Église dans les premières années, hein, c'est-à-dire en 1790. Quel serait l'équivalent aujourd'hui avec le service public audiovisuel? Alors, la première chose dont il faut se souvenir, c'est que en 1789, vous avez eu l'abolition de la dîme et des exemptions fiscales du clergé. Donc, ça a été la fin des privilèges fiscaux. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner, ça, pour le service public? Alors, la redevance audiovisuelle, elle a déjà été supprimée, si vous en souvenez, en 2022. Et ça a été remplacé, je vous le disais tout à l'heure, par le financement avec la TVA. Mais ça pourrait aller. Une réforme consisterait tout simplement à diminuer le financement public. Donc à ce moment-là, vous auriez la nécessité de sources privées avec des publicités accrues, des abonnements, des dons citoyens sous peine de faillite au moins partielle. Donc vous auriez à minima un resserrement colossal des ressources allouées au service public, qui déjà limiterait beaucoup tout ça. La construction d'un narratif qui montre le service public comme privilégié finalement et vivant au crochet du contribuable, avec des budgets déficitaires, les fameux budgets de réception, encore une fois tout ce narratif sur les congés payés, le salaire médian qui est très élevé, etc. Tout ceci est en train d'évoluer. Donc il pourrait aussi y avoir une interdiction de certaines subventions indirectes, par exemple, il semble-t-il des exonérations fiscales sur certaines productions effectuées pour le service public. Tout ça pourrait sauter. La deuxième chose qu'il y a eu, c'est la confiscation et la vente, bien sûr, des biens du clergé. Alors, les biens du service public audiovisuel sont sans doute pas aussi importants qui était relativement au patrimoine français de 1789, les biens du clergé. Cependant, ça représente quand même des choses. Parce que ben, je sais pas, vous avez des bâtiments, vous avez comme la maison de la radio par exemple, mais vous avez d'autres choses. Vous avez les fréquences hertziennes par exemple, qui pourraient être vendues tout simplement parce que c'est patrimonial. Les archives de l'INA pourraient l'être, surtout que je vous rappelle que ces temps-ci, il y a eu, c'était il y a quelques mois, un scandale important sur le type qui était à la tête de l'INA d'ailleurs. Et on s'était aperçu, je crois, que déjà les deux précédents, c'était également très très problématique. Donc vous pourriez avoir. Ça pourrait être là aussi, finalement, être vendu aux enchères ou privatisé. Notamment pour financer la mutation du service public. Ça serait assez cohérent. Oui, tout à l'heure, en plus, je vous ai parlé de France 24, de France 2, France 3, mais il y a aussi France 4, il y a aussi France O. Tout ça, il n'y a pas de raison qu'on maintienne autant de services publics. Enfin, c'est délirant de voir autant de trucs comme ça, c'est véritablement pléthorique. Et donc ça pourrait être supprimé. Troisième point qu'il y a eu, il y a eu la réorganisation administrative et la réduction donc de la structure de l'Église en 1790. Les diocèses ont été réalignés sur les départements. Le tracé a été changé pour correspondre aux départements et que donc ça soit administrativement plus cohérent. Pour l'audiovisuel public, ça pourrait donc fusionner les entités en organismes plus réduits, supprimer beaucoup des postes superflus. Je crois qu'il y a combien? 10, 15 ou 16 directeurs des sports, je crois, à France Télévisions. Enfin, truc hallucinant. Autant de trucs comme si c'était des chaînes de sport. Même sur Bein, il n'y a pas autant de... Donc c'est hallucinant. Donc vous aurez sans doute des gens qui seraient virés comme ça. Vous pourriez avoir des antennes régionales qui seraient plutôt que pilotées depuis Paris, gérées localement, par exemple par le pouvoir politique, mais vous pourriez aussi avoir des représentants élus, puisqu'il y avait des idées d'élire le clergé. On pourrait avoir soit une dissolution de l'ARCOM, parce que c'est important, ça aussi, le tribunal ecclésiastique, soit. Ou l'Inquisition, si vous voulez. Soit, vous pourriez avoir le remplacement par une assemblée élue, une petite assemblée citoyenne qui s'occupe de ça, à moins que ce soit carrément transféré au Parlement, ce qui pourrait être le cas aussi. Autre chose, et que je répète, parce que je l'ai déjà dit, mais j'ai oublié de leur dire au début, le fait d'avoir des commissions parlementaires, naturellement, ça vous renvoie encore à l'idée de l'importance du parlementarisme. Je crois qu'on n'a jamais entendu autant les expressions comme représentation nationale sur les réseaux sociaux, avec sorte d'affirmation face aux journalistes, notamment les séquences avec Cohen que j'ai vues. Mais naturellement, la multiplication des commissions, c'est typiquement, encore une fois, un phénomène révolutionnaire. Vous avez une parlementarisation, donc vous avez des commissions parlementaires. Donc c'est dans ce cadre, c'est tout à fait logique, ça se passe dans ce cadre-là. Parce que, voilà, avec cette idée de briser, il y avait l'idée de briser la hiérarchie ecclésiastique, et ça serait pareil, puisqu'on brosse un petit peu aussi à travers cette commission d'enquête le portrait d'une espèce de bureaucratie parisienne élitiste. Qui ne correspond pas finalement à la réalité du pays. En 1790, la Constitution civile du clergé prévoyait la démocratisation et l'élection des dirigeants. Alors, ça n'a pas duré longtemps, après ça s'était supprimé, puis avec le Concordat de Napoléon, on est revenu là-dessus. Mais il pourrait y avoir des élections, par exemple le président de France Télévisions, comme Delphine Ernotte, elle aurait pu être élue par. Enfin, elle n'aurait pas été élue, elle, probablement, mais élue par des assemblées populaires ou, je sais pas, par des systèmes sur Internet. Enfin, il pourrait être mis en place une espèce de démocratie médiatique, comme ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Peut-être que ça ne durerait pas, encore une fois, parce que on reviendra à des choses plus standards dans le cadre dans le cours de la Révolution nationale ensuite, mais on pourrait avoir une période comme ça. Bon, il y avait eu le serment de fidélité. Alors, c'était le serment à la Constitution qui a été imposé au clergé. Vous savez, vous aviez les prêtres jureurs et non-jureurs. On pourrait imposer un serment de neutralité politique et d'allégeance. il pourrait y avoir des interdictions, par exemple, de partenariat avec les ONG, les lobbies, une vérification de ce que ne sont pas utilisés justement des pseudo-études pour faire passer des agendas particuliers, etc. Ça serait intéressant. Voilà. Et puis, alors, il y avait eu aussi une suppression des ordres monastiques. Ça pourrait, ben, ça serait la fin, par exemple, de certaines exclusivités sur des contenus culturels financés publiquement, etc. Voilà. Mais c'est lié, ça aussi, à la suppression des. Ou la vente des fréquences. Voilà, je pense que c'est le genre de truc vers lesquels pourrait aller le conflit avec l'audiovisuel public. Très honnêtement, je le répète, je pense que c'est pas de la poudre aux yeux, c'est pas juste une séquence comme ça où il y a un député qui se fait plaisir en disant du mal. Je pense que ça va, c'est un mouvement de fond qu'il y a, que c'est tout à fait cohérent avec les changements structurels que doit imposer une période de révolution. Et donc, à mon avis, on va aller vers des choses de ce genre-là. Et donc, je vais continuer à suivre avec intérêt tout ce récit. À titre personnel, je pense que c'est une priorité qu'il y a au moins une refonte de l'audiovisuel public pour que ce soit un petit peu plus. Ben justement démocratique et le fait que ce soit contesté. Parce que, malgré tout, alors je vous ai dit, je ne suis pas venu sur. Je suis pas allé sur le terrain des faits eux-mêmes, encore une fois, les congés payés, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que l'audition de Patrick Cohen a fait beaucoup de bruit. Parce que ça véritable, c'était très clivant. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de gens qui étaient contents de voir Patrick Cohen un peu sur la sellette et mis face à certaines de ses contradictions, notamment sur le fait de pouvoir être les expressions sur la neutralité et le fait de pouvoir être filmé à son insu, etc. Alors que lui, il avait trouvé ça normal quand ça avait été évoqué. Et de l'autre côté, vous avez tout un tas de gens qui sont passés vent debout. Qui ont défendu, en gros, comme si c'était un journaliste courageux et persécuté par le pouvoir. C'est vraiment des dialogues qui sont totalement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Patrick Cohen, en plus, c'est véritablement un bon exemple de ça. C'est-à-dire, vous savez, je vous parlais récemment, politiquement, des gens qui jouent les règles au lieu de jouer le jeu. Et il y a beaucoup de journalistes, et Patrick Cohen est un de ceux-là, il donne ce sentiment-là, qui d'une certaine manière jouent les règles, en ce sens que ils font toujours en sorte d'être capables de défendre la position sur laquelle ils sont neutres, alors qu'ils sont manifestement pas neutres. C'est-à-dire que vous sentez à chaque instant leurs propres idées transpirer à travers ce qu'ils disent, mais ils font toujours en sorte de rester, de pas aller trop loin pour pouvoir continuer à dire en gros qu'ils n'ont pas dit ce qu'on dit qu'ils ont dit, etc. Et ce qui est particulièrement agaçant, parce que du coup, et on le voit dans ce genre de commission, donne l'impression qu'on ne peut pas les prendre en faute sur quoi que ce soit, alors qu'au fond, c'est évident que le système en soi est frauduleux, de toute façon. Sur la question, c'est quelque chose qui est très amusant parce que on fait semblant de faire comme si, c'est-à-dire qu'ils arrivent à cette commission d'enquête tous en faisant comme si le service public était neutre et en essayant d'expliquer que le service public est effectivement neutre, en gros qu'on ne peut pas les accuser d'être partisans, etc. C'est ça qu'ils vont faire devant la commission. Alors que, inversement, le problème, c'est que tout le monde sait qu'ils ne le sont pas. Tout le monde sait, dire, c'est évident, c'est parfaitement évident, c'est extrêmement difficile à détailler, mais parce que, encore une fois, sur chaque problème, ils peuvent expliquer que c'est juste factuel, et c'est comme ça qu'on a vu Patrick Cohen s'explique même notamment sur l'affaire de Crépol. Parce que, en fait, vous voyez qu'il porte systématiquement la version la plus partisane possible, sans que ce soit explicitement partisan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est, y a une fourberie dans le truc qui est pénible. Encore une fois, le fait que des gens aient leurs opinions et qu'ils vous disent j'ai mes opinions et voilà ce que j'en pense, bon, très bien, à ce moment-là, on discute. Le fait d'expliquer, moi, je suis parfaitement objectif, mais mettons la vision de l'affaire, c'est ça, d'accord? Là, ça serait purement de l'opinion, là, ça serait purement de l'opinion. Et le truc objectif, c'est, on va dire, c'est l'effet objectif, c'est là-dedans. Mais vous allez systématiquement les décrire en étant sur le bord d'une des opinions. Donc, c'est déjà plus objectif quand vous faites ça, d'accord? L'idée de l'objectif, c'est qu'éventuellement, vous naviguerez dans l'ensemble des faits objectifs entre une opinion et une autre. Si vous êtes sans arrêt collé à l'autre, tout en expliquant que vous restez sur les faits, ça va pas. Et assez typiquement, moi, c'est toujours l'impression que j'ai eue en écoutant Patrick Cohen. C'est que c'est, et à la, au, au moment de l'affaire de Crépol, c'était en particulier ça. La lecture des événements, c'était toujours. Alors, on fait en sorte que ce soit pas totalement tordu, si vous voulez, mais c'est quand même orienté. Et le fait est qu'en réalité, toute l'action du service public est fichue comme ça. C'est-à-dire, et on le sait, il y a les études qui ont été faites sur les journalistes, et pas que dans le service public, mais aussi ailleurs, on sait que ce sont des gens qui, très majoritairement, sont des gens de gauche. Hein. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais le problème en soi, c'est que ce ne soit pas assumé. Et donc on sait que ce sont des gens qui sont de gauche, mais qui prétendent tous à être dans la neutralité stricte. Et ça, c'est pas possible, parce que vous pouvez pas l'être. Donc si vous pouvez pas l'être, faites pas semblant. Ou au moins dites, écoutez, moi je vois les choses comme ça. Mais ne venez pas expliquer sans arrêt que ce que vous avez présenté, c'est purement objectif. Et pour revenir aussi à une autre chose, je disais, et ça c'est un petit côté intéressant, parce que je vous disais que le discours, d'une certaine manière, l'équivalent religieux, structurellement religieux, du service public, c'est la lutte contre le fascisme, le fait que si vous êtes contre l'immigration, c'est parce que vous êtes un raciste, que vous êtes un fasciste, que vous voulez revenir aux heures les plus sombres, et on sait où ça a mené. Hein, en gros, vous voulez faire un holocauste si vous voulez pas accueillir d'immigration extra-européenne. Donc, grosso modo, c'est ça le truc, l'ambiance dans laquelle on a baigné depuis. Et c'est ce récit-là qui s'est construit et qui a posé des bornes et qui sert notamment à nourrir le barrage républicain. Et on le sait d'autant plus que le barrage républicain, c'est même devenu l'arme suprême, puisque dans les fuites de discussion Cohen-Legrand, on comprenait une chose, c'est que la stratégie pour les socialistes de gagner l'élection, c'était de faire en sorte de se retrouver avec un candidat socialiste en tête à gauche pour qu'il se retrouve face au Rassemblement national et que pour, via le barrage républicain, ce soit lui qui soit élu, alors que les socialistes pèsent 2%. Grosso modo, c'est ça la manœuvre. Et tout ceci, ça c'est la manœuvre, et toute cette manœuvre du barrage, elle repose sur un fondement idéologique qui est cette idée du plus jamais ça, etc. Mais dont on sait qu'en même temps, c'est très, et c'est de plus en plus, hypocrite. Notamment, on le voit depuis 2 ans avec la difficulté à mentionner, par exemple, l'origine du nouvel antisémitisme, etc., qu'on connaît à gauche. Et qui est lié aux populations arabo-musulmanes, très clairement. Il n'y a pas de souci, on le voit et on sait pourquoi LFI drague dans ce sens-là, etc. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant quand vous regardez du coup le clivage dans le service public, c'est que vous avez désormais vous avez un équivalent du clergé lui-même et de ses protestants. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, je vous disais sur la question du service public, le Rassemblement national et la droite est plus à gauche, puisqu'elle est plus révolutionnaire, puisqu'elle veut le casser, que la gauche. C'est-à-dire que vous avez ceux du service public qui veulent continuer à rester sur une certaine version du truc, des écritures, hein, d'une certaine manière, idéologique, et de l'autre, vous avez la droite et le Rassemblement national qui s'approprient le combat antifasciste, d'une certaine manière, en disant, mais c'est nous les vrais antifascistes, c'est nous qui sommes les vrais protecteurs des juifs, parce que c'est pas les autres, etc. Enfin, vous avez vu tout ça, je détaille pas. Vous avez vu ce discours se déployer depuis 2 ans. Et donc on est sur des gens qui se disputent sur la pureté du message. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a aussi une question d'évolution entre la conception cléricale de la croyance et la conception libérée protestante qui fonctionne comme ça. Et voilà comment je vois avancer les choses dans ce sens-là. Alors, juste pour dire un mot ensuite à côté de ça, donc sur cette... Sur ce volet-là de la révolution qui est en train de se déployer. Je ne parle pas du budget, encore une fois, peut-être j'en reparlerai prochainement, mais je m'y suis perdu, puis comme j'ai dû accorder énormément de temps à d'autres sujets, je suis même plus sûr de savoir où ils en sont, si normalement il doit y avoir le vote du budget qui doit arriver bientôt. Ça devrait, la question c'est de savoir qui est prêt à voter ça, parce que c'est beaucoup plus considéré comme politique que le projet de loi de finances de la sécurité sociale, parce que par des sortes d'hypocrisie, on considère que c'est faire partie de la majorité que voter le budget, mais pas celui de voter le budget de la sécurité sociale. Voilà. Et non, par contre, la question intéressante, effectivement, c'est encore une fois, c'est cette remontée de la colère des agriculteurs, à laquelle semblent se greffer d'autres colères. Alors, c'est un petit peu compliqué. Vous avez plusieurs choses. Vous avez la question de la maladie des vaches. Je ne vais pas utiliser le mot parce que je me demande si ça vaut pas des shadowban. Et puis vous avez le Mercosur. Alors la question de la maladie des vaches, très honnêtement, j'ai regardé un petit peu et il me semble que les questions de la façon dont c'est traité, c'est-à-dire en abattant les troupeaux, c'est pas totalement déconnant, apparemment scientifiquement, parce que ça ne... De ce que j'ai compris, ça ne... Effectivement, le grand argument, c'est oui, mais ça altère pas la qualité de la viande. Le problème, c'est que ça a tout un tas d'autres problèmes, d'après ce que j'ai compris. Et notamment, j'ai appris que... Je crois que c'est Antoine Copra sur X qui disait ça l'autre jour, que la maladie était devenue endémique en Algérie et que les conséquences sur l'économie agricole sont dévastées parce que ça multiplie les avortements chez les animaux, donc c'est des bêtes qui ne naissent pas. Vous avez les peaux qui étaient traditionnellement vendues et qui est un marché intéressant, en tout cas lucratif pour les agriculteurs, qui deviennent invendables parce que la maladie elle-même altère les peaux, que ça diminue la production de lait, donc ça a des conséquences économiques, semble-t-il, extrêmement fortes. Et donc, il ne semble pas que la stratégie mise en place par le gouvernement soit totalement déconnante. Sur le plan sanitaire, ça semble même être ce qui est le plus adapté. Donc, c'est pas tellement sur ce... Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, traditionnellement, bon, vous avez une bonne partie de la droite qui fonce au secours des agriculteurs parce que c'est les agriculteurs qui protestent. Et à côté de ça, vous avez la question du Mercosur. La question du Mercosur qui, alors là, j'en dis que deux mots, parce que probablement j'en reparlerai plus tard, mais c'est possible que ce soit un débat extrêmement important à l'échelle européenne, notamment parce que vous avez l'Allemagne et la Commission qui essaient de faire pression sur l'Italie pour qu'elle ne rejoigne pas les protestataires, c'est-à-dire la France, la Pologne et quelques autres, parce que ça risquerait de faire sauter le Mercosur. Et ce qui est intéressant cette fois-ci par rapport aux autres années, c'est que vous avez les partisans du Mercosur qui ont l'air de plus en plus convaincus que si l'accord n'est pas signé là, ben, l'Amérique du Sud n'en voudra plus, et donc qu'en gros c'est la dernière chance de le signer. Et de l'autre côté, vous avez les ennemis du Mercosur qui pensent grosso modo que c'est la dernière chance de s'y opposer, parce que sinon ça sera signé et ça s'imposera. Et donc, le fait, si tout le monde... Si les deux parties commencent à penser que c'est maintenant ou jamais, ça risque de mener effectivement à une radicalisation des positions. Vous savez, on entend des trucs. J'ai entendu Rousseau, le patron de la FNSEA, là, l'autre matin sur France Info. Ça m'a choqué quand il a dit ça. Ça m'a alerté l'oreille. Parce qu'il y a Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui a dit que le gouvernement ne tolérerait plus aucun blocage. Et lui, sa réaction, quand on lui a parlé de ça, il a dit « Mais sinon, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez la guerre civile ?» Et j'ai trouvé ça assez fort, parce que je ne me souviens pas avoir entendu, surtout le président des syndicats qui sont censés être les plus raisonnables du monde agricole, lâcher le mot « guerre civile » aussi vite, quoi. Même si on sait aussi que, comme chaque année, me semble-t-il, on est à la veille d'élections syndicales qui se tiennent en général en janvier et février, donc il n'est pas impossible qu'il y ait une montée en tension aussi autour de cette idée-là. Voilà, donc les agriculteurs, oui, ça monte, encore une fois, je dirais pas que c'est la population la plus révolutionnaire qui soit, mais vous pouvez avoir des gens qui s'y greffent, en particulier lors de l'affaire qu'il y a eu donc, dans l'Ariège, je ne me souviens plus du nom de l'endroit. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a dit que, semble-t-il, il y a, et c'est pour ça que vous aviez les gros camions de gendarmerie là, qui sont pointés, que vous avez des groupes d'ultra-gauche qui ont essayé de s'y mêler pour aller à Castagne, en fait, pour déclencher justement le combat. Et comme vous le savez, j'en ai parlé il y a quelque temps aussi, en parlant de la violence politique et du fait que l'ultra-gauche était sous tension et qu'elle risquait de chercher à déclencher des violences, toute occasion qui permet à l'ultra-gauche de déclencher des violences, justement, est à surveiller, de toute façon. Donc, le Mercosur, ça a été un petit peu repoussé, je crois, au 12 janvier, la signature. Donc, ça risque de remonter en pression aussi autour de Noël, ou en tout cas après le 1er de l'an. Et on verra ce que ça donne. Mais c'est un point de tension important, parce que en même temps, au niveau de l'Europe, c'est-à-dire notamment au niveau de la Commission, on commence à voir les glissements politiques que je vous annonçais au lendemain des élections européennes, c'est-à-dire le fait qu'il y a désormais cette majorité alternative à droite, qui est trouvable, qui est de plus en plus souvent trouvée sur des textes qui sont votés ponctuellement. Et il faut se souvenir que Mme von der Leyen est l'incarnation, on va dire, de la vieille alliance à gauche, hein, d'une certaine manière. Et donc ceci, je crois qu'elle a déjà survécu à 3 motions de censure. Bon, encore une fois, c'est pratiquement pas votable, les motions de censure au Parlement européen. Mais quand vous commencez à, on va peut-être en arriver vers 4 ou 5 là, ça finit, le nombre de motions de censure, même non votées, finit par être quand même assez significatif. Et peut-être politiquement intenable à un certain stade, mais ça on le verra bien. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Parmi les petites annonces que j'ai oublié de noter tout à l'heure, je pense qu'il y a celle sur le bulletin géopolitique. Il n'y en aura plus jusqu'au début du mois de janvier, puisque les jours où d'habitude je l'enregistre, ça tombe veille de Noël et veille du Nouvel An. Donc je risque d'avoir autre chose à faire, malheureusement, que d'aller chercher les actualités. Donc je pense qu'il n'y en aura pas pendant 2 semaines. Surtout que la deuxième semaine, je m'étais posé la question pendant le dernier bulletin de savoir si j'en ferais une à mi-chemin, on va dire. Le problème, c'est que je garde mes enfants en deuxième semaine et qu'enregistrer un bulletin alors que je garde les enfants, ça va vraiment pas être commode. Donc, gros doute, grosse hypothèque sur cette possibilité. Et donc, on va passer à la séance des questions, mais je vous rappelle quand même que le bulletin, tout comme le live privé d'ailleurs, vous pouvez y accéder en souscrivant à la chaîne, selon les différents paliers qui sont disponibles. Il va peut-être y avoir des changements prochains dans les paliers pour tout centraliser sur YouTube. Ça sera peut-être fait à l'occasion, justement, de la mise en place plus régulière des nouveaux types de live super privés, on va dire. Mais voilà. Alors, on va voir les questions qui ont été posées pendant le live. Alors d'abord, je rappelle que, et donc c'est une motivation pour commenter après l'émission, sous le pour ça aide au référencement dans les commentaires. La question la plus ou la remarque la plus likée est celle qu'on me fait passer. Donc celle de la semaine dernière qu'on m'a fait passer Hiruma, c'est toujours pas de nouvelles de la révolution. Bah écoutez, je pense que je vous en ai quand même donné pas mal ce soir et des éléments qui montrent que normalement on est dedans. Merci à GT qui nous a rejoint comme compagnon historionom. Je suis allé voir si on a eu d'autres personnes qui se sont rajoutées par ce biais-là. Il faut que je mette à jour. Et j'ai aussi, je vais aller jeter un œil sur Tipeee. Sur Tipeee, nous avons eu un type de Thomas que je remercie, qui nous dit « Bonsoir le Sud-Ouest, la démographie turque n'est plus très flamboyante. Taux de fécondité 1,48 en 2024, effectivement ça s'effondre. De plus, ils subissent un grand remplacement par les Arabes, Irakiens, Syriens. Pas sûr qu'ils aient capacité un jour de nous faire un nouvel impérialisme revanchard. Vous maintenez vos prévisions. » Alors, je ne parle pas d'impérialisme revanchard hein, pour les Turcs. On est plutôt sur un mode d'impérialisme initial. C'est plutôt comme ça que je le vois. Mais encore une fois, s'ils sont dans une dynamique dans laquelle ils sont prêts à importer des populations comme ça, ça peut fonctionner quand même, surtout que ça, tout ceci va être dans un contexte dans lequel la question c'est surtout le différentiel. Alors ils ont effectivement une population qui risque de diminuer plus vite que la population française par exemple, moins vite quand même que la population allemande ou même la population italienne, me semble-t-il. Donc c'est à étudier relativement quand même. Donc par exemple, l'écart de population va s'accroître au profit de la Turquie avec l'Allemagne, en dépit, surtout qu'il y a déjà une partie de la population allemande qui est en réalité turque, hein, comme on le sait. Je remercie aussi Maxime pour son tip. Je retourne voir dans mes souscriptions pour voir si ça a bien fonctionné. Parce que merci à tous ceux qui se sont réabonnés. Bienvenue à Robert Nathan qui s'est abonné. Et à Araignée du Soir aussi. Je crois que je ne l'avais pas salué la semaine dernière quand il s'est abonné. Je rappelle à tous ceux qui veulent rejoindre le premier palier qu'il vous donne accès à la fois au Telegram et au catalogue de toutes les vidéos qui existent sur la chaîne, notamment les quelques 60 vidéos qu'il y a dans les essentiels, puisque vous avez les essentiels à accès gratuit où il n'y en a qu'une petite dizaine. Mais vous avez une soixantaine de vidéos d'essentiels. Puis vous avez bien sûr tout le reste aussi du catalogue depuis le début de la chaîne, accessible au premier palier. Et puis si vous voulez nous soutenir, vous avez aussi les livres, hein, bien sûr, je rappelle, je ne le cite pas à chaque fois, mais vous allez faire un petit tour sur Amazon avec mon nom. Je sais qu'il y a des nouveaux venus qui ne savent peut-être pas qu'il y a les bouquins, donc vous pouvez y aller voir. Docteur Sherlock qui nous salue, qui est membre depuis 37 mois et qui dit bonne fête de fin d'année à tous les fans d'Historionomie. Donc ça s'adresse à moi autant qu'à vous, mes très chers. Alors, je ne comprends pas pourquoi mon cher Hiruma me dit qu'on entend des notifs alors que le son de mon PC est coupé. C'est parce qu'il doit y avoir. C'est peut-être parce que. Ah oui, ça doit être l'audio du bureau, désolé. Parce que j'avais laissé l'audio du bureau qui était nécessaire l'autre jour pour faire l'émission via Discord. C'est pour ça. C'était vraiment très chouette. J'ai hâte de refaire une émission comme ça. Je disais, je pense aussi que, outre les interventions juste de gens qui viennent poser une question, on fera peut-être des salons avec 3 ou 4 personnes en même temps avec lesquelles on discutera. On fera des séquences qui suivront. Enfin, je pense que c'est le nouveau système de live privé sera beaucoup mieux. Mais le live privé de ce soir, par contre, c'est un live privé classique. Donc, il y aura juste réponse aux questions en direct. Et on va enchaîner ça tout de suite. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Je ne sais pas à combien on a de pouces là maintenant, parce que ça, c'est pas actualisé. On en a 181. Alors, vous étiez 460. Je pense qu'on peut faire mieux. Vous pouvez au moins atteindre les 200, si possible, les 250. C'est extrêmement important, je le rappelle, pour le référencement. Et si vous n'avez pas un copec à mettre dans la chaîne, ce que je comprends, les temps sont durs pour tout le monde, mais je rappelle que le partage et le pouce, c'est encore le meilleur moyen de répandre la bonne parole. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Je vous souhaite un joyeux Noël, puisqu'il n'y aura pas d'émission d'ici là. À bientôt et vous laissez pas faire.